Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, je vous propose de prendre vos planches de surf et d'écouter une musique de plage. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around,
round, 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 I get around.
Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around,
get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around.
C'est du moins ce que pensaient faire les jeunes gens qui achetèrent l'album Pet Sounds des Beach Boys. Les Beach Boys, c'est un groupe américain de musique pop formé en 1961 et qui arrive de Californie. Très populaire dans les années 60 et 70, c'est un des rares groupes à avoir pu rivaliser musicalement avec les groupes britanniques de la même époque, tels que les Beatles et les Rolling Stones ou Pink Floyd. Alors à l'origine, leur musique est affiliée à la surf music. Le groupe s'est surtout distingué par ses chansons, dont celle que l'on vient d'entendre, I Get Around, qui sont devenues célèbres grâce aux harmonies vocales complexes et très mélodiques. Il fut en effet très en vogue aux États-Unis au début des années 60. Le groupe, à l'époque, se compose de Brian Wilson, qui est né en 42, qui est le chanteur, le bassiste et le principal compositeur du groupe. Son frère, Dennis, né en 44, assurera le chant, la batterie et un petit peu les compositions au fur et à mesure, on va dire, de l'existence du groupe. Carl, lui, c'est le guitariste. Il est né en 46, donc c'est le plus jeune des trois frères. Il assure aussi les chants, mais souvent en deuxième rideau. Mike Love, lui, qui est né en 41, c'est le cousin des frères Wilson. Il assure le chant, c'est lui le chanteur principal de la plupart des chansons des Beach Boys. Al Jardine, en fait, c'est le copain, né en 42. C'est le copain parce qu'il a rencontré Brian Wilson à l'occasion d'un match de football américain. Et les deux jeunes gens se sont liés d'amitié. Et comme ils ont commencé à jouer de la musique ensemble, c'est ensemble qu'ils ont décidé justement de créer les Beach Boys en 1961. Mais en fait, ce soir, en vous parlant de l'album Pet Sounds, qui est le 11e album studio du groupe, je ne vais absolument pas vous parler de plage, ni dans aucune façon de surf. Cet album, il est sorti le 16 mai 1966 sur le label Capitol Records Et cet album est souvent considéré comme l'un des plus influents de l'histoire de la musique pop. En fait, il a ouvert un nouvel univers sonore pour tous les musiciens de l'époque. Et comme l'un des meilleurs avec des chansons comme « Wouldn't Be Nice » ou « God Only Knows ». Pet Sounds, c'est essentiellement un projet solo de Brian Wilson, créé justement après qu'il ait arrêté les tournées avec le groupe, pour se concentrer sur l'écriture et l'enregistrement. L'album est marqué par des harmonies vocales, mêlées d'effets sonores et d'instruments moins conventionnels que ce que l'on peut entendre par ailleurs avec des claviers ou des guitares. Là, dans cet album, on va en entendre des sonnettes de bicyclette, des jeux d'orgue, de clavecin, des flûtes, des accordéons, de l'harmonica, des hautbois, du sifflet pour chien, des instruments à cordes type hawaïen, mais aussi des canettes de Coca-Cola qu'on cogne les unes avec les autres, et aussi des aboiements de chiens. Bref, bien que Pet Sounds n'ait pas eu tout de suite beaucoup de succès, surtout aux États-Unis, il a reçu en revanche un excellent accueil en Europe et dans les critiques de journaux. C'est l'album précurseur du rock psychédélique alors émergent, dans la liste des 500 plus grands albums, par exemple, de tous les temps, selon Rolling Stone. Il est classé à la deuxième place derrière Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club des Beatles. L'histoire, c'est que Sgt. Pepper's n'existe que parce qu'il y a eu Pet Sounds. Et c'est ça la grande leçon de cet album. Alors je le présente dans un lot d'albums généralement inspirés du blues. En réalité, parce que beaucoup d'artistes l'ont pris en compte, et y compris des artistes qui juste là étaient connus pour jouer du blues. Je pense à Eric Clapton qui a dit que pour les trois membres de Cream, par exemple, dont on a parlé récemment, eh bien cet album Pet Sounds est comme l'un des meilleurs albums pop jamais faits. Il couvre tout ce qui nous a toujours touché dans notre culture musicale. Mais Elton John, Paul McCartney, j'en reparlerai, ou Roger Waters des Pink Floyd ont toujours vénéré cet album. Et quand on sait le style de musique qu'ils ont produit tout au long de leur carrière, on peut reconnaître qu'il n'y a sûrement pas de fumée sans feu. Dans la tête de Brian Wilson, tout est parti avec l'album des Beatles, Rubber Soul. En fait, cet album, qui était le premier album concept, était rempli de chansons tout aussi originales. Inspiré, il se précipita pour voir sa femme, Wilson, et déclara « Marilyn, je vais faire le meilleur album de rock de tous les temps ». Pour Brian Wilson, cet album, ce premier album concept, est vraiment une découverte. Aussi, début janvier 1966, Brian Wilson contacte Tony Asher, qui est un jeune concepteur parolier, ayant travaillé sur des jingles publicitaires, et qu'il avait rencontré quelques mois plus tôt. Durant 10 jours, tous les deux vont travailler d'arrache-pied. Wilson lui passa des musiques qu'il avait déjà enregistrées et une cassette, notamment avec un instrumental, pour lequel, de son côté, Brian avait préparé des textes. Mais il choisit de ne pas en parler à Tony Asher, qui, de son côté, imagina un texte original. Le résultat fut finalement renommé « You Still Believe in Me », et la qualité du morceau permit de convaincre Wilson que c'était la bonne formule et que Tony Asher était le bon partenaire pour ce projet. En réalité, Tony Asher plus tard dira que son seul travail était de trouver des mots qui conviennent parfaitement à la musique. Il était en réalité l'interprète de la musique de Brian Wilson dans les mots. Et McCartney, de son côté, dira que la mélodie du morceau que nous allons écouter, « You Still Believe in Me », est forte en émotion. Elle le prend toujours un peu à la gorge, tellement il aime cette mélodie qui en réalité le tue à chaque fois. With me. Every time we C'était You Still Believe in Me, des Beach Boys, sur OxyWeb Radio. La chanson suivante, Wouldn't It Be Nice, a été composée, comme toutes les autres, par le duo Brian Eulson et Tony Asher. Et tout ça entre décembre 1965 et janvier 1966, c'est-à-dire relativement rapidement. Brian Wilson, comme je l'ai dit, avait interrompu sa participation aux tournées du groupe. Aussi, quand le groupe, qui est revenu d'une tournée en Asie, a découvert les chansons, Mike Love, en particulier, celui qui généralement assurait la voix principale, mais également Dennis Wilson ou Al Jardine, lorsqu'ils découvrirent ces créations, se rendirent compte qu'en réalité, Brian Wilson avait imaginé un nouveau son, de nouvelles sonorités. Et qu'en plus, les textes d'Asher étaient vraiment très nouveaux et parlaient de notions qui étaient étrangères jusque-là. Jusque-là, les Beach Boys étaient plutôt enfermés dans une formule « belle voiture »,« jolie fille »,« plage ensoleillée »,« partie de surf », etc. Et tout ça, ça leur avait assuré beaucoup de succès jusqu'alors. Donc Mike Love en particulier, qui était l'habituel auteur des paroles pour le groupe, a été complètement déstabilisé en découvrant les nouveaux textes. Donc il a exigé, malgré tout, de les corriger et de participer à la rédaction. C'est le cas avec Would It Be Nice. Pourtant, la vérité, c'est que ce texte a été déposé sur l'équivalent de la SACEM américaine et dès le début de l'année, avant même qu'il ne découvre la chanson. Et en fait, Brian Wilson a cédé à la pression parce qu'il a senti que Mike était très remonté contre cet album, et les compositions, bien sûr, en particulier. Ultérieurement, Tony Asher avouera qu'en réalité, la seule chose et la seule contribution de Mike Love à l'album a été une phrase, justement, dans cette chanson, où il souhaite la bonne nuit à sa chérie, et il lui souhaite de dormir tranquillement.
Talk about it, it only makes it worse to live.
C'était Wouldn't It Be Nice des Beach Boys sur OxyWeb Radio. La forte opposition de Mike Love au titre original de la chanson suivante, I Know There's an Answer, d'abord appelé Hang On Unto Your Ego, ça veut dire accroche-toi à ton ego, et son insistance à Mike Love à le changer et à réécrire la chanson au moins en partie, auront constitué finalement l'essentiel de sa contribution à celle-ci, avec d'ailleurs un nouvel associé du groupe, Terry Session. Les paroles d'origine créèrent en effet une tension au sein du groupe. Mike Love s'exprima plus tard sur le sujet. « Je savais que Brian avait commencé à essayer le LSD et d'autres drogues psychédéliques. À l'époque, le jargon de la drogue clamait que certaines doses de LSD pouvaient faire éclater l'ego de chacun, comme s'il y avait là quelque chose de positif. Or, je n'avais pas envie de prendre de l'acide ou de me débarrasser de mon ego. » Al Jardine, de son côté, l'autre chanteur important du groupe, déclara que la décision de modifier le texte finalement en revint à Brian Wilson lui-même. Brian était très préoccupé, il voulait notre opinion sur le sujet et comprenait que, pour être honnête, il n'était pas certain que nous savions tous ce qu'était l'ego de chacun. Finalement, c'est Brian qui déclara « Oubliez tout ça, je change le texte, ça fait trop de problèmes. » Et Thierry Sachen, finalement, co-auteur des paroles, les a révisées. Pour l'histoire, jusque-là, il était le nouveau road manager du groupe.
I know so many people who think they can do it alone.
C'était I Know There's an Answer, des Beach Boys toujours, sur OxyWeb Radio. chanson suivante s'appelle Sloop John B. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est antérieure de quelques mois à l'enregistrement du reste de l'album. Mais elle a constitué un moment décisif dans le développement de l'album. C'est une chanson populaire, issue des Caraïbes, que le membre du groupe, Al Jardine, a proposé à Brian Wilson un jour. Brian la garda, enregistra une sorte de playback en juillet 65, mais après y avoir ajouté une première prise vocale, il mit la chanson de côté, pensant que finalement elle servirait que peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Et comme il le disait précédemment, le véritable déclic pour Pet Sound est venu avec la version américaine de l'album Rubber Soul des Beatles, sorti en décembre. Et cette version de l'album était modifiée par rapport à la version anglaise de Rubber Soul pour mettre en valeur le côté folk-rock de l'album, dont la critique attribuait la paternité à Bob Dylan ou The Byrds. Brian Wilson a témoigné des premières impressions laissées par cet album révolutionnaire. Je n'étais vraiment pas préparé à l'entendre, on aurait dit que tout allait ensemble. Rubber Soul constituait un ensemble de chansons particulièrement homogènes qui allaient en fait ensemble d'une façon encore jamais vue dans un album précédent. Et Brian Wilson dira toujours qu'il a été très impressionné et il s'est dit « c'est ça que je veux faire » et c'est là que je me suis senti mis au défi de faire un grand album. Et il se trouve que Sloop John B., dont la mélodie a touché un large public ultérieurement, contient exactement la tonalité que dégagera l'album au complet.
We come on the sloop John B, my grandfather and me, around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight, well I feel so broke.
C'était Sloop John B des Beach Boys sur OxyWeb Radio. L'album comprend deux instrumentaux sophistiqués. D'abord le nostalgique Let's Go Away for a While et le morceau de surf rock cuivré et hésitant appelé Pet Sounds, d'où a été nommé le nom de l'album. En fait, au départ, ce Pet Sounds, ce morceau-là, était intitulé Run James Run. Et l'idée de Brian Wilson était de l'offrir pour être utilisé dans un film de James Bond, ce qui finalement n'a pas été fait. Les deux instrumentaux devaient servir initialement de playback aussi pour des chansons existantes. Mais lorsque l'album fut presque complet, Brian Wilson décida que les chansons fonctionnaient mieux sans texte et les laissa finalement sous la forme instrumentale. Un troisième instrumental, Trombone Dixie, fut aussi enregistré, mais demeura inédit jusqu'à une parution ultérieure dans une version remasterisée et une nouvelle donc réédition. Alors l'origine et la signification du titre de l'album, Pet Sounds, restent encore incertaines aujourd'hui. À un moment donné, Brian Wilson déclara que le titre rendait hommage à Phil Spector par le biais de ses initiales. Carl Wilson déclara plus tard que son idée était que tous les gens ont des sons qu'ils adorent, dans les maisons, dans leur environnement propre, et qu'il s'agissait d'une collection de ces sons domestiques qui étaient réunis dans une seule composition. Ça a été dur en fait au départ pour les Beach Boys de penser à un titre pour l'album parce qu'ils ne pouvaient sûrement pas l'appeler Shutdown, qui évoquait un peu tous les bruits environnants à qui ils demandaient de cesser. Shutdown voulant dire baisser le volume. Mike Love a également prétendu être à l'origine du titre. Comme il dit, on se trouvait dans le couloir de l'un de ses studios d'enregistrement, Western ou Columbia Records, et on n'avait pas de titre finalement à disposition. Or, on avait pris des photos au zoo, et il y avait, dans la projection de ces photos, des sons d'animaux qui sortaient avec l'enregistrement qui avait été fait. Alors on s'est dit, eh bien, c'était notre musique favorite de l'époque, et ils se sont dit, bah, pourquoi n'appellerait-on pas l'album Pet Sounds, et la photo de couverture de l'album fut prise finalement pour être cohérente avec ce nouveau titre lors d'une visite du groupe réalisée au zoo de San Diego. Voilà donc ce fameux instrumental intitulé Pet Sounds qui a donné le nom de l'album. C'était donc le morceau Pet Sounds de l'album Pet Sounds des Beach Boys sur OxyWeb Radio. Et je suppose que vous avez remarqué tous ces bruitages et l'assemblage réalisé par Brian Wilson et qui, pour l'époque, encore une fois, était révolutionnaire. Le morceau suivant s'appelle God Only Knows et c'est certainement celui qui représente le mieux tout le travail vocal réalisé par le groupe pendant les enregistrements. En effet, le mois de mars et le début avril furent consacrés à l'enregistrement des derniers playbacks et des pistes vocales, ce qui représenta le travail le plus exigeant entrepris par le groupe jusqu'alors. Mike Love déclara à ce sujet qu'ils avaient travaillé et retravaillé les harmonies et que s'il y avait le moindre soupçon d'une note trop aiguë ou d'un bémol, ça ne passait pas, il fallait la refaire. Et Brian à chaque fois insistait sur les nuances les plus subtiles qu'on puisse imaginer. Pour lui, chaque voix devait être exacte. Chaque voix et sa résonance et sa tonalité devaient être exactes. Le timing devait être exact. Le timbre des voix devait être correct et selon son ressenti. Et s'il le pouvait, le lendemain, il rejetait tout et il recommençait à zéro. Brian Wilson concède qu'on peut considérer Pet Sound comme un concept album, certes, mais il a été novateur ne serait-ce que dans la manière de le produire et de le structurer. C'est le premier album où sa culture blues puis rock'n'roll apparaît secondaire. Jusque-là, il s'était beaucoup inspiré de ça. Là, il s'en était un petit peu écarté pour jouer justement davantage sur les sons, pour plus tard revenir à sa culture de base et faire finalement ce qu'il savait faire le mieux, à savoir créer des mélodies et des harmonies remarquables. Si je peux me permettre, je peux dire à titre personnel que je pense que cet album a déclenché toutes les variantes musicales des années suivantes qui ont donné une telle richesse. L'année 67 a été une des années les plus riches. Il y en aura d'autres durant les années 70, mais l'année 67 en particulier, et on la parcourra ensemble. Je pense que cet album a ouvert les oreilles des jeunes musiciens qui étaient jusque-là surtout pétris de blues et de rock'n'roll, et ils furent désormais convaincus qu'un autre univers musical est possible. God Only Knows en est le point d'orgue de mon point de vue. Écoutez le son de chaque instrument et vous verrez, à chaque fois, tout change sans cesse.
There are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
C'était God Only Knows, toujours des Beach Boys, sur OxyWeb Radio. Le morceau suivant s'appelle Karen No Et c'est un des morceaux les plus représentatifs, encore une fois, du travail particulier réalisé par Brian Wilson dans cet album. Donc les playbacks de Pet Sounds, donc de l'album, furent enregistrés sur une période de 4 mois dans les studios d'enregistrement les plus importants de Los Angeles. Et pour cela, Brian Wilson s'est appuyé sur un panel de musiciens de studio très en vue, qu'il appelait les musiciens du Wrecking Crew, c'est-à-dire les démolisseurs, qui comprenaient entre autres, parce qu'ils étaient très nombreux, le guitariste de jazz Barney Kessel, la bassiste Carol Kay et le batteur Al Blaine. En fait, c'était des musiciens très en vue dans les studios de Los Angeles, voire du reste des États-Unis, et qui jouaient dans à peu près tous les grands albums sortant aux États-Unis à ce moment-là. Et ça faisait plusieurs années que Brian Wilson avait développé ses techniques de production dans les studios. Et à l'occasion de Pet Sounds, il les a portés finalement à leur zénith. L'approche de Wilson, en fait, était, par certains aspects, une version développée et affinée de la technique du World of Sound, qui était le mur du son, qui était créée par son mentor, Phil Spector, que peut-être vous connaissez par ailleurs, ne serait-ce que pour le River Deep Mountain Out de Tina Turner. Grâce au nouveau magnétophone Ampex 8 pistes, Wilson produisit des morceaux d'une grande complexité. Et Caroline No en fait partie. Dès le départ du morceau, comme surtout pour la fin, les dernières secondes, où finalement on comprend tout le mécanisme intellectuel de Brian Wilson qui construisait ses sons avec un assemblage d'enregistrements à l'aide de plusieurs magnétophones. La méthode de production typique de Brian Wilson pour Pet Sounds consistait en effet à enregistrer les playbacks instrumentaux de chaque chanson au cours d'une seule session avec l'ensemble des musiciens réunis dans le studio. Et ensuite, Brian Wilson mixait généralement ses playbacks en direct, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'arrivaient les sons, il les assemblait directement, avant de les transférer sur des magnétophones 8 pistes, donc beaucoup plus puissants, beaucoup plus sophistiqués. Et comme Phil Spector, Wilson était un pionnier de l'idée que le studio, en réalité, c'était un instrument en soi. Et ça lui permettait donc d'exploiter toutes les combinaisons sonores possibles, que ce soit des instruments électriques, que ce soit avec les voix et aussi bien avec des enregistrements réalisés par ailleurs. Bien que l'autodidacte Brian Wilson ait souvent pensé à l'intégralité de l'arrangement dans sa tête, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'il avait déjà l'enregistrement dans sa tête avant de le réaliser, on peut penser qu'il était néanmoins très ouvert aux suggestions des musiciens. Prenez garde de bien les écouter et quelquefois modifier son idée, qu'il appelait en réalité des erreurs, si elles offraient si la proposition, si la suggestion qui lui était faite, offrait un aspect intéressant, voire utile. Le plus étonnant, c'est qu'il résonnait tout le temps en mono et jamais en stéréo. Thank you. C'était donc Caroline No sur OxyWeb Radio. L'album fut terminé à la mi-avril et présenté à Capitol Records pour une sortie officielle le 16 mai 1966. L'album ne rencontra pas le succès espéré par Brian Wilson, atteignant au maximum la 10e position du hit parade américain. En fait, Pet Sounds rencontra son plus grand succès au Royaume-Uni et en Europe, atteignant la 2e position du hit parade en Grande-Bretagne. Son succès dans ce pays s'explique notamment par un soutien appuyé de l'industrie musicale britannique, les journaux ainsi que les principaux artistes. Le premier single de l'album, Caroline No, parut comme une œuvre en solo de Brian Wilson. Ce single atteignit la 32e place du hit-parade américain. De notre côté, Sloop Zombie reconnut plus de succès, il atteignit la 3e place du hit-parade et il atteint la 2e place sur le hit-parade britannique. Pour ce qui concerne Would It Be Nice et God Only Knows, ils sortirent en fait sur le même single, ou 45 tours comme on disait à l'époque. Mais ils sont sortis différemment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et leur succès a été différent également dans les deux pays. Dans le premier cas, aux États-Unis, c'est Would It Be Nice qui était la face A et qui a obtenu la 8e place, la God Only Knows ayant un classement beaucoup plus modeste. Alors qu'en revanche, au Royaume-Uni, God Only Knows, devenu la face A, a atteint la 2e place des parades. Et c'est assez étonnant de constater qu'en fait, dans les deux pays, où la culture est quand même relativement équivalente, eh bien le sort réservé à ces chansons était très différent. Tout le fait que l'album permit aux Beach Boys d'être désigné le meilleur groupe de l'année dans un sondage de la revue New Musical Express, devant les Beatles notamment. Et ça, c'est assez remarquable à souligner. De fait, le journaliste David West estime que l'échec de l'album, échec apparent en fait, cet échec auprès des fans du groupe vient du fait que ceux-ci n'étaient pas du tout préparés à accepter un album très orchestré, aux mélodies complexes et aux textes recherchés. Alors que jusqu'à présent, le groupe composait des chansons uniquement destinées à un public d'adolescents, comme je disais tout à l'heure, fanat de plage, de surf et de jolies filles. Aujourd'hui, la critique musicale dans son ensemble considère l'album comme le meilleur du groupe et l'un des meilleurs des années 60, déclarant que l'album était d'un tel niveau que son contenu musical n'avait pas encore été apprécié dans toute son étendue. C'est vrai que c'est un album qui, à chaque écoute, dévoile certains aspects qu'on n'a pas forcément perçus à la première écoute. Je vous passe maintenant That's Not Me, ce n'est pas moi en anglais, titre un peu ironique vu l'implication des auteurs de la chanson dans cet album. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. Thank you.
so I packed up and split for the city. I soon found out that my lonely life wasn't so pretty. I once had a dream, so I packed up and split for the city.
C'était That's Just Me des Beach Boys sur OxyWeb Radio. Arrivé à la fin de cette émission, je voudrais saluer les amis ayant découvert cet album sur mes conseils. J'espère être parvenu durant cette émission à leur expliquer sa richesse et son rôle dans les productions musicales à venir, ce que je n'avais pas pu faire en son temps. Pour compléter, j'ajoute que parmi les anciens Beach Boys, Carl Wilson a déclaré « C'était tellement plus qu'un album, il avait une telle puissance spirituelle. Avec cet album, on a fait plus qu'un grand des hits, ça voulait dire bien plus que ça. » Et même Mike Love, qui a longtemps été opposé à la réalisation de cet album, au moins à l'origine, y concéda lors d'une interview beaucoup plus tard que le meilleur album des Beach Boys était bien Pet Sounds. Je reviens aussi à Paul McCartney qui a plusieurs fois déclaré que bien sûr Pet Sounds était son album préféré et que God Only Knows était sa chanson favorite. Refermant ainsi une sorte de cercle qui avait commencé par l'influence des Beatles avec Rubber Soul sur Brian Wilson. McCartney a déclaré il n'y a pas si longtemps « C'est Pet Sounds qui m'a fait sortir la tête de l'eau. J'aime tant cet album, je viens d'acheter d'ailleurs une copie pour chacun de mes enfants, pour leur éducation. Et je pense que personne ne peut dire qu'il a reçu une éducation musicale avant d'avoir entendu cet album. C'est peut-être aller loin de dire, et c'est toujours lui qui parle, que c'est un des classiques du siècle. Et je me suis souvent passé Pet Sounds et il m'a souvent fait pleurer. Je l'ai tellement passé à John Lennon que ça a dû lui être très difficile d'échapper à son influence, notamment lors de la préparation de l'album Sgt. Pepper's, qui ne devait pas tarder à sortir dans les mois qui suivent. Enfin, il faut savoir qu'à cause du manque de succès commercial de Pet Sounds, Brian Wilson ressentit une profonde déception, le plongeant davantage encore dans les drogues avec un effet négatif sur son travail ultérieur. Dans une tentative de faire mieux que l'album Pet Sounds, Wilson commença à travailler sur son nouveau projet, Smile, mais diminué par les drogues et sans le soutien du groupe et du label, il abandonna rapidement ce nouveau projet. En plus, en écoutant Sgt. Pepper's qui devait sortir au cours de l'année suivante, ici il sut que les Beatles avaient atteint ce qu'ils visaient avec Smile. Et de fait, il y renonça. J'attire aussi votre attention sur le film Love and Mercy qui est sorti en 2014 et qui raconte de façon assez décousue, mais peut-être assez fidèle finalement, l'état d'esprit du groupe à l'époque de l'enregistrement de Pet Sounds. Et il montre surtout le comportement, la richesse et toute l'inspiration d'un type comme Brian Wilson, qui est pour moi un génie mal connu de la musique pop. Enfin, pour terminer vraiment, je rapporterai la phrase dite à Brian par Al Blaine, qui était le batteur des sessions de Pet Sounds. Vous rappelez, je vous ai parlé des Démolisseurs, le groupe de session man qui travaillait avec lui sur cet album, et qui lui a dit un jour en sortant d'une séance, « Tu sais, Brian, nous avons tous travaillé avec les plus grands, Sinatra, Elvis, Phil Spector, Sam Cooke, etc. On a passé des années au conservatoire, mais toi, tu as la grâce, toi. » Toi, tu nous en mets plein la vue. Mais en attendant la semaine prochaine, où je vous parlerai de Jefferson Airplane et de leur album The Realistic Pillow, sorti en 1966, comme il nous reste du temps, je vous propose de vous montrer combien Brian Wilson, finalement, a su reprendre ses esprits et faire en sorte que les Beach Boys sortent un super tube. Ce super tube s'appelle Good Vibrations et finalement a effacé un petit peu la mauvaise impression laissée par Pet Sounds. Mauvaise impression provisoire parce qu'ensuite tout a changé. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bah, roulez blues.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations. Good vibrations.
She's giving me the
excitations.
Good
vibrations.
She's giving me the excitations.
Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
excitations. Good vibrations. Good vibrations, good vibrations, good vibrations.